VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 16h à Ouagadougou et 17h à Yaoundé. Au Burundi, alors que la contestation a été muselée, le pouvoir affirme aujourd'hui que 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées en vue des prochaines élections législatives et présidentielles. Des précisions avec Nicolas Pineau.
C'est la présidence burundaise qui relate ce chiffre sur son site internet en relatant une réunion tenue mardi à Gitega entre les gouverneurs de province et Pierre Nkurunziza. À cette occasion, le président burundais a affirmé que 90% de la population a déjà retiré la carte d'électeur dans la perspective des prochaines élections. Et selon lui, la CENI va continuer à distribuer ses cartes d'électeur afin que ceux qui regagnent le pays puissent se présenter aussi aux élections. Interrogé par VOA Afrique, Prosper Ntaoramiye, porte-parole de la CENI, estime que les données pour Bujumbura ne sont pas établies, mais que dans le reste du pays, le taux de retrait des cartes d'électeurs avoisinerait les 100%. Un chiffre surprenant puisqu'actuellement le HCR recense environ 100 000 réfugiés burundais, en majorité des femmes et des enfants. La moitié d'entre eux se trouvent en Tanzanie, puis viennent le Rwanda, la RDC et de plus en plus l'Ouganda. Le pouvoir burundais affirme aussi que la sécurité règne actuellement dans le pays. Sur les 119 communes burundaises, seuls 4 quartiers de Bujumbura posent problème. Nyakabiga, Mutakura, Musaga et Ngagara. Le Burundi sera encore au menu des discussions de l'Union africaine réunies en sommet en Afrique du Sud. On ignore pour le moment si Pierre Nkurunziza se rendra en personne auprès des autres chefs d'État et de gouvernement.
Un journaliste rwandais travaillant pour des médias de son pays a été arrêté et inculpé d'espionnage au Burundi, faute d'accréditation. Les autorités burundaises ont durci le ton contre la presse locale et étrangère depuis le début en avril du mouvement de contestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza, un nouveau mandat. Étienne Bessabeza Mivumbu travaillait, selon l'agence rwandaise de presse, pour la radio Ibuza. Il a été arrêté lundi en compagnie d'un taxi-moto rwandais qui le transportait dans la commune de Giterani, a dit à l'AFP le procureur de la République de Muyinga. Au Mali, le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta a été approuvé à une large majorité ce matin à Bamako. M. Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir de la crise et a demandé l'implication de tous et à tous les niveaux pour accomplir cet objectif, rapporte l'AFP. 116 députés ont voté pour et 16 contre. Ces derniers sont tous des membres de l'opposition. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dimanche et lundi prochain à Johannesburg en Afrique du Sud. Le thème officiel de cette année est le développement et l'émancipation des femmes. Mais la réunion devrait être dominée par des sujets d'actualité brûlante comme la crise au Burundi, la question des migrants qui risquent leur vie par milliers pour regagner l'Europe, la guerre au Soudan du Sud et les attaques des mouvements islamistes qui menacent plusieurs États depuis le Sahel jusqu'au Kenya. Les États-Unis seront représentés au sommet par Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, entre autres personnalités américaines.
C'est une nouvelle prouesse de la science. L'opération du jeune Sud-Africain avait duré 9 heures. Le pénis greffé avait été prélevé sur un donneur décédé après accord de sa famille. Le miracle s'est produit.
En Afrique du Sud, un jeune ayant bénéficié de la première greffe réussie d'un pénis sera papa d'ici la fin de l'année, soit moins d'un an après l'opération. Son chirurgien qui a donné l'information l'avait opéré à la suite d'une circoncision traditionnelle ratée. Jean-Roger Bion.
VOA Afrique en direct de Washington.
Une milice armée investit aujourd'hui le consulat tunisien à Tripoli et a enlevé 10 fonctionnaires, a annoncé le gouvernement tunisien, rapporte l'AFP. Une cellule de crise a été formée, a indiqué le gouvernement tunisien dans un communiqué. Le secteur a été complètement bouclé et des forces de sécurité empêchaient les journalistes de s'approcher des lieux. Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté nationale tunisienne et des lois et normes internationales et diplomatiques qui garantissent la sécurité des fonctionnaires et des missions diplomatiques et consulaires. La diplomatie tunisienne a une nouvelle fois appelé ses ressortissants en Libye à la prudence, à quitter le pays si possible et à ne pas s'y rendre sauf en cas de nécessité absolue. Interpol a annoncé ce vendredi avoir suspendu le partenariat avec les instances gouvernantes de la FIFA, alors que le Paraguay prenait également des mesures suite au scandale de corruption qui frappe le football international. Des précisions avec Camille Gros-Didier.
Interpol a annoncé la suspension de son accord avec la FIFA suite aux enquêtes pour corruption engagées contre l'organe directeur du football, précise un communiqué de l'organisme de coopération policière qui est basé à Lyon. Dans le cadre d'un accord signé en mai 2011, Interpol avait reçu 20 millions d'euros de la FIFA pour mettre en place un programme intitulé « Intégrité dans le sport » d'une durée de 10 ans, le but étant d'empêcher la manipulation d'événements sportifs par des mafias. La FIFA est au cœur d'un scandale de corruption présumé suite à l'ouverture d'une enquête par le département de la justice américain. À peine réélu pour un cinquième mandat, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a démissionné le 2 juin. Entre-temps, le Sénat paraguayen a supprimé l'immunité dont bénéficiait depuis 1997 le siège de la Confédération sud-américaine de football à Asunción. L'un de ses anciens dirigeants, Nicolas Leoz, a été inculpé par la justice américaine dans le cadre du scandale qui touche la FIFA.
Un tribunal français a acquitté l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, qui était accusé de proxénétisme aggravé. Un précédent scandale sexuel à New York avait mis fin à sa carrière au Fonds monétaire international. Des précisions avec Michel Joseph.
Le tribunal de Lille a prononcé son acquittement ce vendredi. S'il avait été reconnu coupable, Dominique Strauss-Kahn aurait fait face à 10 ans de prison et à une amende de 1,7 million de dollars. Au moins 10 des associés de l'ex-patron du FMI ont également été acquittés. Pendant les audiences qui se sont ouvertes en février, des femmes ont témoigné sur la nature brutale des orgies qu'il a été accusé d'avoir organisées. Strauss-Kahn a admis qu'il a participé à des orgies, mais il a dit qu'il ne savait pas que les femmes en question à Lille, Bruxelles, Paris et Washington étaient des prostituées et il a nié l'organisation de ces rencontres libertines. Strauss-Kahn, une fois considéré comme candidat potentiel pour la présidence française, a été contraint de démissionner du FMI en 2011 après avoir été accusé de viol par Nafissatou Diallo, une femme de chambre dans un hôtel de New York. Les procureurs de New York ont finalement abandonné l'affaire contre lui.
L'UNESCO a condamné aujourd'hui la mort de 5 personnes et la destruction de plusieurs édifices de la vieille ville de Sanaa au Yémen, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, dans un raid aérien de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Selon des habitants, l'attaque aérienne avant l'aube de ce vendredi est la première frappe directe à toucher la vieille ville de Sanaa depuis le lancement le 26 mars de la campagne aérienne menée par la coalition arabe contre les rebelles houthis et leurs alliés. Un missile a chuté sans exploser dans le quartier de Kassimi, situé dans une zone qui comprend des milliers de vieilles maisons de plusieurs siècles. La chute du missile a aussi démoli des maisons de 3 étages et tué 5 personnes, dont une femme et un enfant, ont indiqué à l'AFP des sources médicales et des témoins. Aux États-Unis, un adolescent américain a admis hier devant un tribunal qu'il a essayé d'aider le groupe État islamique à recruter des partisans et à lever des fonds. Ali Soukri Amin, 17 ans, a plaidé coupable des accusations de complot pour fournir un soutien matériel à un groupe terroriste étranger, une infraction passible d'une peine de 15 ans de détention. Selon le procureur général adjoint américain pour la sécurité nationale, John Carlin, l'adolescent a utilisé les médias sociaux pour porter assistance aux djihadistes. Il a ajouté que les extrémistes islamistes, aussi éloignés soient-ils, tendent la main aux jeunes pour essayer de les radicaliser, les recruter et les inciter à la violence. Maître Joseph Floud, l'avocat d'Ali Soukri Amine, dit que son client de 17 ans regrette ce qu'il a fait et coopère maintenant avec les autorités américaines.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.